18h presque 35, on va accueillir au bout du fil Aurélie Langteau, qui est essayiste, chroniqueuse au devoir, rédactrice en chef de la revue d'idées Liberté, s'intéresse beaucoup, beaucoup au monde du travail. Et dans une chronique écrite par Aurélie Langteau en 2017, ben on a trouvé des idées là-dedans qui ont inspiré, par exemple, un documentaire sur la place du travail dans nos vies. Et en ces temps de pandémie, le travail est au cœur de nos préoccupations. Hein. Qu'on travaille ou pas, on a, on peut espérer revoir notre travail. Si on est en train de travailler, on se pose des questions sur les conditions de travail. Est-ce qu'on aura du travail? C'est au cœur des préoccupations des individus et des gouvernements. Aurélie Langteau est au bout du film, Salut Aurélie Langteau.
Salut.
Qu'est-ce qu'on a appris sur le monde du travail depuis deux mois, presque trois mois?
Ah, écoute, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant sur les relations de travail qui se passent depuis le début de la pandémie, puis pas juste au Québec et au Canada, là, un peu partout, on a un peu l'impression que les relations de travail puis notre rapport au travail est en pleine redéfinition forcée, si on veut, parce que là, évidemment, énormément de gens ont changé la façon dont ils travaillent en travaillant à la maison. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, mais aussi et surtout, je pense, c'est qu'on réalise comment on avait une conception étrange de la valeur du travail. Hein? Parce que là, soudain, on se met à parler des travailleurs essentiels comme étant, les employés, évidemment, dans les commerces, les travailleurs de la travailleuses de la santé, et on se rend compte à quel point on dépend de leur travail, et c'est comme si ce discours-là, c'était vrai bien avant, mais on l'avait un peu mis de côté, ou en tout cas perdu de vue. Et puis là, ce qu'on découvre aussi, c'est les conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses essentielles-là qui sont absolument pas satisfaisante.
Mais en fait, c'est le paradoxe là. Quand tu parles Aurélie Langteau des travailleurs essentiels, évidemment, il y a les travailleurs de la santé, etc. Mais il y a aussi des travailleurs à très petit salaire, des gens au salaire minimum. Il y a comme un paradoxe dans le fait que tu es un travailleur essentiel, mais que tu gagnes assez mal ta vie.
Ben complètement. En fait, moi, j'ai été particulièrement interpellée par les déclarations qu'a fait le premier ministre Justin Trudeau il y a peut-être deux semaines, quand il parlait de la possibilité de bonifier le salaire des travailleurs essentiels qui gagnent le salaire minimum. Donc, dans un de ses points de presse, il a dit quelque chose comme « Si vous travaillez au salaire minimum dans un commerce essentiel et que vous risquez votre vie à tous les jours pour aller travailler, vous méritez de gagner plus. » Donc là, évidemment que c'est vrai. Hein, les gens qui tous les jours sont dans les épiceries, les commerces qui sont restés ouverts tout au long de la pandémie, quand tu gagnes 13 et 10 $, c'est vraiment un salaire qui est dérisoire, surtout quand on sait que ça permet à peine d'avoir un revenu viable. Mais c'est quand même très paradoxal que le premier ministre Justin Trudeau dise que c'est parce que c'est étant donné qu'ils sont en train de risquer leur vie, ils méritent de gagner plus. Alors que, en temps normal, même quand ils risquent pas leur vie, il me semble que tout le monde qui travaille mériterait d'avoir un salaire qui lui permet d'assurer le coût de son logement, de son panier d'épicerie, tout ça, et puis aussi pas juste des dépenses de la survie minimale, là, de pouvoir vivre un petit peu. Et je trouve que il y a une forme d'hypocrisie qui s'est révélée dans la façon dont on parle du travail, parce que là, on se rend compte que on a besoin de ces travailleurs-là, que leur travail a une valeur sociale qui est très, très importante, mais on est comme un peu embarrassé de constater qu'on leur donne pas des conditions de travail qui permettent à quelqu'un de vivre décemment.
Écoute, je vais citer un extrait de ta chronique, d'une chronique récente dans Le Devoir. C'est pourtant pas seulement lorsqu'on risque sa vie qu'on mérite de gagner plus que le salaire minimum. On mérite de gagner plus parce que le salaire minimum ne permet pas de vivre. Est-ce que c'est vrai pour tous ceux qui travaillent au salaire minimum? Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont au salaire minimum, qui n'ont pas les mêmes dépenses que tout le monde. On pourrait-tu penser à une façon de, je sais pas moi, avoir des salaires minimums différents selon les types de travailleurs?
Mais moi, je pense que oui. Puis il y a une note de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui est parue la semaine dernière qui fixe le revenu viable, c'est-à-dire un revenu qui permet d'assurer ses besoins de base, mais aussi de sortir durablement de la pauvreté. Selon la région, disons, à Montréal, pour une personne seule, le revenu après impôt, ce serait 27 948 $ par année. Alors ça, si tu travailles 35 heures par semaine au salaire minimum, tu gagnes pas ça. Puis si tu es une personne seule, tu as un enfant en CPE, ben là, on parle de plus proche de 40 000 $. Donc là, c'est sûr que tu gagnes pas ça quand tu travailles au salaire minimum. Donc, c'est comme si là, il y a l'aveu très clair que travailler, ça suffit pas à sortir de la pauvreté. Et puis là, c'est sûr que ça paraît indécent dans un contexte où les employés des services qui gagnent le salaire minimum risquent effectivement leur vie à tous les jours. Mais il me semble qu'on pourrait réfléchir en temps normal à ce que ça veut dire comme société, qu'on laisse des gens travailler à temps plein dans un emploi qui est assez pénible. Là, c'est difficile de travailler dans les commerces au salaire minimum. C'est des emplois qui sont pénibles souvent, et que même ça, ça suffit pas à sortir de la pauvreté. Puis il y a une expression, moi, que je trouve intéressante, qui est celui des travailleurs et travailleuses pauvres, c'est-à-dire qui désigne exactement ça, là, les gens qui occupent un emploi à temps plein et qui gagnent pas suffisamment d'argent pour répondre à leurs besoins. Puis c'est comme si on avait cette croyance que c'est un truc qu'on voit peut-être aux États-Unis ou dans certaines sociétés où il y a moins de réglementation sur le travail et plus d'inégalité, mais non, c'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai particulièrement, c'est vrai à Montréal, mais c'est vrai aussi dans les régions, là, dans les régions éloignées, le prix de la consommation est plus élevé, tout ça. Et puis, ben, je pense que là, il y a l'aveu qu'on l'a échappé quelque part, parce que ça a aucun sens. On parle souvent de la nécessité d'accompagner les gens dans leur sortie de la pauvreté, mais attends, là, même les travailleurs sont pas capables de faire ça. On a un sérieux problème, à mon avis.
À Montréal, si on était pour le moduler là, par région, à Montréal, le salaire minimum à l'heure, ça devrait être quoi?
Ben bon, là, il y a eu évidemment des campagnes de sensibilisation, des propositions politiques qui ont été mises sur la table. On se rappellera que dans les dernières années, il y a plusieurs centrales syndicales qui proposaient la formule 5-10-15, là, donc 15 $ de l'heure minimum le 5, le 10, je me souviens pas, c'est de connaître 5 jours d'avance son horaire, mais bon, eux fixaient la revendication à 15 $ de l'heure pour le salaire minimum. Mais si on regarde un peu plus près, on se rend compte que même 15 $ de l'heure, c'est pas tout à fait assez pour avoir un revenu décent, là, c'est-à-dire qui permet de faire un peu plus que payer son loyer puis une épicerie pas super satisfaisante, disons, là, qui permet de vivre un peu. Il faudrait viser quelque chose qui ressemblerait plus à 18 $ de l'heure. Mais là, on est quand même encore loin du compte. De ce que je sache, depuis le début de la pandémie, puis encore moins en temps normal, il n'y a pas vraiment eu de proposition en ce sens-là.
OK, je veux qu'on parle du salaire des préposés aux bénéficiaires. Il y a eu beaucoup de débats sur la valorisation de ce poste-là, dont on se rend compte qu'il est essentiel. Hein? Quand on parle de l'importance des travailleurs de la santé, c'est pas juste les neurochirurgiens. Il y a aussi ceux qui s'occupent là, des patients comme les préposés aux bénéficiaires. Il me semble que là-dessus, dans cette crise-là, il me semble que ça a eu du bon qu'on se soit dit, ben là, les salaires des préposés n'ont pas de bon sens. On va les augmenter, puis le gouvernement Legault a fait des pas en cette direction-là.
Il a fait... C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on fait des pas, mais sans jamais les faire tout à fait. Hein. Puis là, dans le point de presse aujourd'hui, je trouve que ça ressortait beaucoup. Là, on commence à dire, bon, écoutez, oui, on manque de travailleurs qualifiés dans les CHSLD. On aurait 10 000 postes à combler, donc vous voyez, on va offrir des formations, des meilleures conditions salariales, un meilleur échelon salarial, puis... Bien sûr, ça relève de l'évidence, là, surtout quand on voit c'est quoi les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires ces dernières années. Mais en même temps, je pense que ça doit s'accompagner d'une réflexion plus large sur la rémunération de tous les travailleurs de la santé. Parce que là, on le sait, là, les infirmières en ce moment sont en train de renégocier leurs conventions collectives. C'est très difficile d'accéder à leurs demandes alors qu'elles sont vraiment épuisées. Donc moi, j'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à une façon de pas placer les travailleurs de la santé en compétition les uns avec les autres, tu sais, puis de réfléchir à une augmentation de salaire qui serait peut-être plus généralisée, non?
C'est quoi le salaire idéal dans une société? Qu'est-ce que ça nous prend pour bien vivre? Non, mais je me rappelle Aurélie Langteau, j'ai lu il y a quelques années, là, il y a Alain Dubuc qui avait fait un livre sur l'argent, l'ancien chroniqueur de la presse, puis lui avait dit, je parle d'il y a 10 ans environ, là, le salaire, là, au-delà de 75 000 $ là, au Canada, ben la formule, c'est pas que c'était pas nécessaire, mais à 75 000, t'en as assez pour vivre.
Ouais, ben c'est vrai, puis il y a toute une série d'études aussi qui démontrent qu'à partir d'à peu près ça, le 75 000 $, les bénéfices que tu tires de plus de salaire que ça en termes de bonheur sont euh, sont de moins en moins intéressants, là. Mais souvent, une mesure qui va être intéressante à observer, c'est le rapport au salaire moyen. C'est-à-dire que, parce que tout dépend des niveaux de prix dans une société aussi, là, combien coûtent les loyers, la consommation, etc. Mais souvent, ce qu'on va regarder pour dire, OK, est-ce qu'un tel revenu permet de bien vivre, c'est le ratio par rapport au salaire médian. C'est-à-dire, mettons, dans une société qu'on voudrait à peu près égalitaire, il faudrait pas que ce soit plus que les salaires dépassent pas plus que 10 fois le salaire médian, sinon on serait dans une zone où il y a trop d'inégalités. Mais après, pour fixer un chiffre, c'est ça. Tout dépend des niveaux de prix puis des écarts à la moyenne et tout. Mais souvent, c'est ça qu'on va regarder. C'est cet écart au revenu médian qui va nous dire si une personne se trouve dans une situation de précarité ou de pauvreté ou si au contraire, il y a des revenus qui sont vraiment trop élevés.
Aurélie, je ne veux pas te laisser partir sans parler d'un thème féministe d'égalité. Tu as écrit l'essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes », par exemple. Et là, il y a été beaucoup question cette semaine, c'est passé un peu en dessous du radar, là, de l'écriture épicène là, qui est portée par la mairesse Valérie Plante et son administration. Pour situer les gens, l'écriture épicène, c'est d'y aller avec des termes neutres quand on peut éviter d'utiliser le masculin. Par exemple, plutôt que de dire « les policiers enquêtent », on va dire « la police enquête ouais. ». Etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé que ce soit le principe ou le timing, comme on dit en latin. Ouais. Est-ce que c'est le moment d'imposer l'écriture épicène dans une administration en temps de pandémie?
Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, l'écriture épicène, la féminisation, tout ça. Là où j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu ironique dans le contexte, c'est qu'en ce moment, on a tendance à beaucoup utiliser des termes épicènes ou de masculiniser lorsqu'on parle des travailleurs essentiels, alors qu'on sait que là, ce serait peut-être important de spécifier que ce sont en fait des travailleurs essentiels dans la majorité. Donc, peut-être que des fois, l'écriture épicène ou le langage épicène peut être intéressant pour pas masculiniser à outrance, mais après, si ça vient... masquer la réalité de certaines femmes, c'est peut-être pas le plus approprié dans le contexte. Mais quand même, je vais être claire, là, de façon générale, moi, je pense que l'expression épicène, c'est quand même une bonne idée, tout comme la féminisation de l'écriture, du langage, tout ça.
Merci beaucoup, Aurélie Langteau. Bonne soirée.
Ça fait plaisir. Bonne soirée.
Aurélie Langteau est chroniqueuse au Devoir et rédactrice en chef de la revue Liberté. 18h46, au retour de la pause. On va parler de bal de finissant. Non, d'après-bal de finissant. Ça va être virtuel et ça va se passer cette année avec Marie-Pierre Morin.